Les podcasts d'AFDS.TV. Les suppléments d'Aux Frontières des Séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. La hit série Alexandre Marlier.
C'est récurrent depuis quelques années, les grands ou les moyens networks adaptent des personnages et des héros de comics, et c'est le cas désormais pour NBC qui a mis à l'antenne Constantine. Et pour nous en parler aujourd'hui, Sophie Sourdiocro, bonjour.
Bonjour.
Et pour nous accompagner, Tilman Villette, bonjour.
Bonjour.
John Constantine, c'est un exorciste démonologue qui a perdu son âme et qui est tourmenté par la perte d'une de ses protégées, une fillette de 9 ans nommée Astra, qui, par son échec à lui à la sauver, connaîtra des tourments éternels. Et dans le premier épisode de la série, il se fait interner en hôpital psychiatrique pour enlever des parties de sa mémoire. Et on le découvre sur une table d'électrochoc. Bon, évidemment, c'est pas là que les démons vont lui foutre la paix, hein. Très rapidement, une jeune femme est possédée et il découvre un message en sang sur le mur, « Leave, die ». Et puis ça va le faire partir immédiatement à la recherche de la Leaf en question, la fille d'un de ses vieux amis. Il lui apprendra à regarder au-delà du plan humain, à voir les âmes piégées, les démons, des trains fantômes, des trucs bizarres qui flottent dans le ciel. Et c'est via cet apprentissage qu'on découvrira l'univers de Constantine et toute la mythologie de la série. Dans le pilote, on voit tout de suite une vraie adéquation avec le comics et non pas avec le film. Donc il y a eu un film...
C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que voilà. C'était en rapport avec le film? C'est un film avec Keanu Reeves, je crois?
Oui, un film avec Keanu Reeves, où Keanu Reeves est habillé en costume noir, il a les cheveux noirs, évidemment. Où il est assez sombre, il est beaucoup moins drôle. Ici, l'acteur Matt Ryan ressemble déjà physiquement beaucoup plus au héros des comics et est habillé comme le héros, donc c'est-à-dire avec un imperméable un peu à la Columbo, un imperméable beige et une cravate à moitié dénouée, une chemise blanche. Il a les cheveux blonds roux parce que le personnage à la base a été dessiné sur l'apparence de Sting, le chanteur. Ici, on est nettement plus proche avec Matt Ryan qu'avec Keanu Reeves. Et les fans du comics avaient d'ailleurs été un peu déçus de l'adaptation en film. Moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé le film. Je l'avais trouvé vraiment intéressant. Keanu Reeves avait été assez charismatique dans ce film, ce qui n'est pas toujours, hein. Il faut quand même bien le dire. Mais donc là, on est vraiment sur totalement autre chose. On est vraiment sur l'adaptation de la BD et non pas sur une déclinaison du film.
Donc, on fait complètement fi du film qui a précédé. Il n'a pas existé pour la série.
Non, pas du tout. Et il y a même... Enfin, il y a des personnages qui étaient dans le film qui ne sont pas dans la série ou qui sont totalement différents. Donc, on oublie le film pour cette adaptation sur NBC. Le personnage de Constantine ici est comme dans le comics sarcastique, rusé, manipulateur, macho, enfin avec des tas de défauts de caractère. Par contre, ça a beaucoup choqué les fans. On ne le voit pas fumer, évidemment, parce que maintenant, avec les politiques des networks américains, il ne peut pas fumer. Et donc, Constantine...
Sans cigarette, c'est pas Constantine.
Ben, c'est pas Constantine, parce que Constantine, en fait, il a un cancer du poumon. Donc, il sait qu'il va mourir et en plus, il est damné parce qu'il a perdu son âme de par des actions du passé qu'on n'explique pas tout de suite. Hein. Mais on sait qu'en tout cas, le fait d'avoir perdu cette petite fille nommée Astra dont il avait la charge a fait que son âme s'est un peu envolée. Et donc, évidemment, le fait qu'il ne fume pas, ça enlève quand même. Mais il y a quand même des indices parce qu'on le voit faire un geste comme s'il écrasait une cigarette. On voit pas la cigarette, on voit pas le cendrier, mais on le voit faire un geste. Il y a quand même des éléments qui fait, on sait qu'il fume parce qu'il joue avec son briquet, par exemple. Et donc, mais on le voit jamais fumer à l'écran.
C'est un peu hypocrite quand même, pour le coup.
C'est clairement hypocrite, hein, ça c'est sûr. Et puis, il est aussi différent du comics parce qu'il y a des références à Dieu. Ce qui est pas vraiment dans le comics, il va pas appeler, quand il exorcise quelqu'un, il va pas dire mon créateur ou ce genre de choses, par Dieu Tout-Puissant, dans les comics, ce sera plus des noms d'anciens dieux de la mythologie grecque ou germanique.
Sinon, c'était comme dans le comics et notamment aussi dans le film, c'était donc un chasseur de démons. Ici, à l'image. Tout ce qui est en rapport, je dirais, avec le surnaturel, a-t-on droit à des effets spéciaux? Si oui, sont-ils corrects pour le coup? Parce que c'est pas toujours le cas dans les séries surnaturelles à la télévision.
Non, effectivement. Alors ici, étonnamment, on a des effets qui sont très très bien. Le cratère qui se forme tout d'un coup parce qu'un démon est très très bien. Mais alors, il y en a un avec le démon qui a un effet sur l'électricité, avec un genre de câble de chemin de fer comme ça qui se balance tel un serpent. Ça fait vraiment très fake. Mais il y a de très bons effets, de très bons maquillages aussi. Mais il y en a où ça passe pas et c'est un peu le problème des premiers épisodes en fait. On passe du très bon dans le jeu de l'acteur principal. et puis du moins bon. Et ça va dans tous les domaines, aussi bien dans les effets, dans le jeu des acteurs, dans le scénario. Il y a de très bonnes choses au scénario. Et puis, tout d'un coup, le scénario est beaucoup plus faible, ce qui fait que tout l'épisode est plombé un peu par un manque de rythme, par un manque de rebondissement. Surtout dans le premier épisode, on découvre le personnage de Liv. Et on se dit, bah, comme il y a aussi un passif avec Constantine, vu qu'il était ami avec son père et tout, il va lui parler de son père qu'elle n'a pas connu. Et puis surtout, on va découvrir qu'elle a des talents de clairvoyance. Donc on se dit que ça va être utilisé dans toute la série. Et le contrat de l'actrice n'a pas été renouvelé. Et donc, à la fin de l'épisode, on dit, ah ben voilà, on la met à l'abri. John Constantine fait un truc super chouette pour qu'elle ne soit plus jamais embêtée par les démons et elle part en Californie. Je pense qu'ils auraient quand même pu un peu se creuser la tête pour trouver une autre façon de se débarrasser de Liv.
Parce qu'il est bien connu qu'il n'y a aucun démon en Californie.
Il n'y en a pas. Mais non, vu que Buffy a fait...
Ah oui,
on
Buffy
va le
a
placer
fait,
dans
oui.
tout.
Effectivement, Buffy a fait le ménage. Ouais.
Voilà, elle a fait s'effondrer la ville sur elle-même. Mais donc, il faut une fille, évidemment, parce qu'il faut quand même un peu de délicatesse dans cette série de machos. Et donc, on fait arriver le personnage de Zed, Z-E-D, une jeune fille que Constantine va rencontrer lors d'une enquête en Pennsylvanie. Et en fait, elle dessine. Elle dessinait Constantine des mois avant de le rencontrer. Elle tombe évidemment face à face avec lui dans la rue. Dans chaque épisode, on l'emmène sur une nouvelle enquête. Donc c'est un peu une impression d'enquête policière surnaturelle, un peu comme dans la série Supernatural. Et donc il va de démon en démon, de problème en problème. Là, en Pennsylvanie, il va dans une mine où il y a des choses bizarres, où les gens prennent feu spontanément. L'épisode d'après, il part à la recherche d'un disque qui a été sur lequel a été enregistrée la voix du premier déchu, et quand quelqu'un l'entend, il meurt.
Donc on a affaire vraiment à un formula show qui dépend réellement de son scénario à chaque fois et qui pourrait au final un peu devenir lassant.
C'est un peu le problème, et c'est vrai que si en tout cas sur les premiers épisodes, les scénaristes sont assez moyen, hein. Il y a du bon, il y a du moins bon, donc ils ont vraiment intérêt à relever le niveau du scénario pour continuer à intéresser le public et à trouver surtout un public fidèle. Il y a plusieurs indices pour les fans de comics, ça je crois que ça peut justement créer une communauté de fans. Dans une des premières scènes, il y a le casque du Dr. Fate sur un coin, ça parlera aux fans de comics, mais c'est pas du tout, on n'en parle pas du tout, hein. C'est juste dans un coin, donc ça peut...
C'est des clins d'yeux en fait.
Voilà, c'est des clins d'yeux à plusieurs autres comics de DC Comics, vu que c'est le groupe auquel appartient Hellblazer Constantine, non original.
Bon, tu la conseilles ou pas ?
Eh ben, en tout cas, je ne la déconseille pas. Moi,
c'est déjà ça.
C'est déjà ça. Je suis assez fan de genre de séries un peu avec une mythologie forte. Je pense qu'il faut vraiment qu'elle se développe rapidement et il faut que les scénaristes s'attachent à rendre l'histoire beaucoup plus forte.
Et puis, ça peut mener vers quelque chose de plutôt bien. On se souvient des saisons 2, 3 et 4 du Caméléon, alors que la série était basée au départ sur une saison 1 très formula show, qui était très très lassante, et que par la suite, la mythologie avait effectivement donné l'envie aux spectateurs de suivre, tellement c'était prenant. On ne parlera pas de la fin, évidemment. C'est autre chose. Mais effectivement, on pourrait éventuellement se diriger vers quelque chose dans le même genre.
Je souhaite, parce que le personnage peut vraiment être attachant et est intéressant justement par tous ses défauts de personnalité.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on va refermer ce podcast. On vous remercie de votre fidèle écoute. On reparlera peut-être éventuellement de Constantine dans un prochain dossier. Merci à vous deux d'avoir été avec nous et pour vos explications. On se retrouve très très bientôt.
Les podcasts d'AFDS.tv aux frontières des séries.